Phil PM. La voix est libre.
On va parler avec Luc Lavoie, que je salue. Bonjour, mon
Salut,
Luc.
Salut, Bernard.
Commémoration de Tiananmen, de la répression, du massacre, diront de certains, de Tiananmen, il y a 30 ans en Chine.
Oui. Alors moi, tu vois, la première fois que j'ai été en Chine, c'était en janvier 79. Ça, c'était au moment où les négociations allaient bon train pour renouveler renouer des relations diplomatiques complètes avec les États-Unis. Puis il y avait une petite vague de démocratie. Il y avait un mur même au cœur de Pékin qu'on appelait le mur des Dazibao, qui étaient des espèces on allait épingler des messages, on veut plus de démocratie. Puis ils avaient laissé aller ça pendant un certain temps. Puis d'un coup, clac, ils ont arrêté ça complètement. C'était sous Deng Xiaoping. Et là, la Chine est partie à une vitesse folle, 10%, 11%, 12% de croissance annuelle. Tu vois, 8 ans, 9 ans plus tard, et là, il s'était produit ce que nous autres, les grands naïfs, avions cru possible, à savoir que lorsqu'un pays devient plus prospère, normalement, ça a été le cas, par exemple, en Corée du Sud, puis on pourrait donner d'autres exemples, quand tu vois la prospérité arriver, tu vois aussi un développement politique et des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que les gens qui, comme la théorie de Marx le veut, c'est par le ventre qu'on décide. Quand ils ont le ventre plein puis que la prospérité économique s'installe, relativement parlant, les gens s'ouvrent à des idées plus grandes.
Puis c'est pas juste ça. C'est que au fur et à mesure où tu t'enrichis, tu as intérêt à avoir un mot à dire sur les règles du pays qui pourraient te pénaliser pour ton enrichissement.
Ouais, mais fondamentalement, tu veux parler de ta liberté, tu comprends?
Bien sûr, ça va ensemble. Je veux être libre. Ça va ensemble.
Alors, ça a commencé, ça, en Chine, comprends-tu, ce qui a mené au massacre de Tiananmen. Ça a commencé à peu près au mois d'avril, quand un certain Hu Yaobang, qui avait été le grand patron, c'était le secrétaire général du Parti communiste, il avait été déchu. Mais c'est un des leaders chinois qui, depuis la révolution de 1949, avait le plus montré d'ouverture à l'idée d'avoir plus de démocratie, plus de liberté d'expression, tout ça. Et finalement, le parti l'avait sacré à la porte, l'avait déchu comme un rien du tout. Puis 2 ans plus tard, il est mort, puis c'est à peine si les médias chinois l'ont mentionné. Et c'est alors que les étudiants se sont levés. Les étudiants ont dit, mais on ne peut pas oublier quelqu'un qui a fait autant pour la cause des droits de la personne. Et là, ils ont mis une pression telle sur le régime que le régime a fini par plier puis a offert des funérailles d'État pour Hu Yaobang. Et là, ils ont eu le choc de leur vie. Il y avait 100 000 personnes aux funérailles d'État.
Qui n'étaient pas juste là pour Hu Yaobang, ils étaient là parce qu'ils demandaient la liberté.
Ben oui, c'était ça.
La liberté d'expression, la liberté de la presse.
C'était en quelque sorte l'aimant qui les a rassemblés.
La lutte à la corruption aussi contre le régime,
oui,
très important dans la lutte contre les étudiants. Moi, je veux te dire...
La répression, à la corruption, la démocratie. Et là, après ces funérailles-là, il s'est engagé à une espèce de jeu de bras de fer en Zhao Ziyang, qui était le patron, Deng Xiaoping, qui était le grand sage, bien qui était tout petit, mais qui était déjà un vieillard, et un certain Li Peng, maintenant décédé, et qui était devenu comme l'homme fort du régime. Zhao Ziyang voulait y aller plus mollo avec les étudiants. Deng Xiaoping ne savait plus trop quoi dire, puis d'autant plus qu'il avait comme 93 ans, je pense. Et Li Peng a pris le contrôle, puis il a dit, écoute, ça va arrêter là. Puis au même moment est arrivé à Pékin un certain Mikhail Gorbatchev. Il n'est pas arrivé là pour faire du trouble, c'était une visite déjà prévue. Or, quand il est arrivé au mois de mai, on est à quelques mois de la chute du mur de Berlin. On est au moment où la Pologne est redevenue démocratique. On est au moment où les Hongrois laissent tomber les frontières puis laissent sortir les gens pour aller vers l'Occident. On est à ce moment-là d'une espèce d'effervescence et Gorbatchev, par la perestroïka et la glasnost, ces deux grandes politiques, était devenu comme une inspiration de ça. Alors Gorbatchev, qui a tout fait pour ne pas s'en mêler pendant sa visite, est devenu lui aussi un point de rassemblement. « Monsieur Gorbatchev, entendez-nous, nous voulons de la démocratie, de la glasnost en Chine, patati, patatatatata. » Alors finalement, le bras de fer s'est poursuivi, puis le 3 juin au matin, il y a 30 ans, Zhao Ziyang, qui était le patron, a été parlé aux manifestants avec un porte-voix, et ils ont fait entrer l'armée, mais l'armée sans armes, sans baïonnette, rien, juste pour dire comme un coup de semon, si vous continuez, on va te lairer à la place. Puis il n'y a rien qui est arrivé. Non seulement les étudiants ne sont pas partis de la place Tiananmen, mais ils se sont multipliés. Et là, tout à coup, ils ont dit d'accord. Ils ont fait entrer des forces spéciales de gens qui n'avaient rien à voir avec la région de Pékin parce que les militaires avaient dit « on ne veut pas tirer sur les nôtres ». Ils ont fait rentrer des forces spéciales à la limite des mercenaires du régime. Mm. Ils sont rentrés, puis ça a été le massacre. Le massacre, selon les autorités chinoises, c'est à se rouler de rire, 241 morts.
On parle de milliers.
On s'entend plutôt entre 3 et 4 000.
Voilà.
Okay? Ils ont tiré dans le tas, littéralement tiré dans le tas, et juste avant de le faire, ils ont éloigné tous les caméramans. Mm. Il existe quelques images, dont une d'un caméraman de la CBC, maintenant à la retraite, Scott Troyer, qui avait réussi, tu sais, il s'était fait tasser les médias, mais il avait réussi à travers une sorte de craque du mur de voir, tu vois, de la fumée, puis t'entendais des coups de feu, puis tout ça, mais fondamentalement, on les a jamais vus, ces images-là. Celle qui est restée célèbre, c'est l'image du gars avec ses deux...
L'étudiant.
Ses deux, mais il y avait comme deux sacs de shopping, puis il y a une colonne de blindés, là, des vrais blindés avec chenilles qui s'en viennent, puis ils se plantent devant eux, puis là, le blindé essaye de contourner le gars par la gauche, puis le gars se tasse, puis il essaie de faire la droite, puis le gars se tasse. Ouais. Ça, cette image-là, elle a été tournée à peu près 24 heures, à plus ou moins 20 heures avant le massacre. Et là, quand le massacre est arrivé, c'est arrivé sans que personne s'y attende. Tout à coup, ces troupes-là, armées jusqu'aux dents et avec ordre de tirer à vue, sont entrées dans le tas.
Okay? Ouais. Alors, j'ai un auditeur qui me demande, est-ce qu'on sait ce qui était devenu de cet étudiant qui s'était planté devant la colonne de blindés? À ma connaissance, on ne le sait pas.
Moi, je pense qu'on ne sait pas.
Il a probablement été exécuté, franchement. Par ailleurs, moi, je t'expliquais ça à micro fermé avant qu'on retourne en onde. Moi, j'étudiais à ce moment-là, je faisais ma maîtrise à Londres, et puis la BBC diffusait sur ondes courtes BBC World Service. Et puis, écoute, ils diffusaient en direct ce qui se passait sur la place Tiananmen. J'en ai un souvenir encore très, très vivace, parce que jusqu'à la fin, on a espéré que les étudiants gagnent quelque chose. Et finalement, le régime s'est refermé sur eux-mêmes.
Totalement.
Li Peng, dont tu parles, là, m'a dit une affaire. Lui, le jour où il y aura une véritable démocratie en Chine, il va disparaître des livres d'histoire parce que, franchement, c'est un homme ignoble qui a essentiellement décidé de les massacrer. Là. C'est lui qui a donné l'ordre. Là.
Et depuis, la Chine est retournée dans sa façon de faire et c'est de plus en plus vrai. Souviens-toi là, qu'on apprenait il y a que 3-4 mois qu'ils ont développé des technologies de reconnaissance faciale où littéralement tous les citoyens de la Chine vont être filmés en
permanence. C'est un régime de plus en plus autoritaire.
Ils vont donner des scores. Si tu vas trop souvent à la bibliothèque, oups, t'es un brasseur de troubles.
Big Brother. C'est Big Brother.
Complètement. Alors,
et les images, en passant, Luc, les images de cet étudiant devant la colonne de char, il y a un journaliste de la BBC qui a fait un reportage récemment. Il s'est promené en Chine avec son laptop et il montrait à des Chinois de la rue, des monsieur et madame tout le monde, la fameuse photo de l'étudiant devant la colonne. Ils n'ont pas vu cette photo-là, les Chinois.
Ils l'ont jamais vu, puis ils ne commémorent pas ni en le condamnant ni autrement. C'est comme si la journée du 3-4 juin, les fameuses 24 heures de
comme
Tiananmen,
si ça s'était jamais passé.
Ça s'est jamais produit. Ce n'est jamais arrivé. C'est là qu'on en est. Le massacre de Tiananmen,
qu'est-ce que ça a donné, finalement? Est-tu resté quelque chose de ça?
Qu'est-ce qui est resté de
ça? Moi, je pense qu'il n'est rien resté, malheureusement. Il est resté un souvenir
d'une
aspiration démocratique.
Il est resté un souvenir, puis aussi, il faut se rendre compte que, tu sais, ça faisait un bout de temps que la Chine avançait à coup de 2-3% par année de croissance, mais c'est exactement à ce moment-là que ça a pris des proportions comme 10-12% de croissance par année. Donc, alors que la répression redevenait plus vive encore, en même temps, la prospérité arrivait. T'sais. Et là, ça a
c'est
fait
comme
en
ça
sorte que les gens se sont comme calmés.
Eh oui.
Aujourd'hui, il en reste quoi? Il en reste des souvenirs, il reste cette image extraordinaire, mais il reste aussi un pan d'histoire. 1989, c'est un point tournant dans l'histoire du monde, en tout cas du 20e siècle.
Ben oui.
Pourquoi? Parce que c'est l'année où le mur de Berlin est tombé, c'est l'année où le régime soviétique s'est effondré, c'est l'année de ces troubles-là à Tiananmen. C'est une année charnière dans l'histoire du monde. Alors ça, Tiananmen,
ça participe
à cette tentative de se libérer de ces pouvoirs répressifs qui régnaient depuis trop longtemps.
Oui, voilà. Non, c'est vrai. Alors, je suis absolument certain d'une chose, c'est qu'un jour, la Chine va se démocratiser. Est-ce qu'on verra ça de notre vivant ou pas? Je n'en sais rien. Mais le Parti communiste ne va pas gérer jusqu'à la fin de l'histoire de la Chine les destinées des Chinois. Et ce jour-là, ce jour-là, il s'en trouvera pour ramener ces images-là et dire, savez-vous quoi? On se réclame de ce mouvement-là, ouais, de démocratie de 89, tu sais?
Sans doute, mais il faut toujours, quand on pense à la Chine, se rappeler que quand on veut appliquer des critères d'ici pour parler de démocratie, c'est pas toujours faisable. C'est un pays de 1,5 milliard ouais. d'habitants.
Je te dis pas que ça serait facile.
Par exemple,
le fait serait facile,
ils interdisent à des paysans de venir s'établir en ville. C'est interdit.
Ouais. Là, tu ça n'a pas toujours été interdit.
Pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites là? Mais là, tu parles à un responsable chinois, puis il va te dire quoi? Écoute, si je fais pas ça, ils vont rentrer 25 millions dans mes villes. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'y faire face. Alors, la population chinoise, la concentration d'êtres humains dans un pays comme ça est telle qu'on ne peut pas penser que demain matin, il va y avoir l'équivalent du Parti libéral ou du Parti républicain. On est loin de ça. Loin de ça. Si on peut laisser aller un peu de liberté d'expression, ce sera ça de fait de notre vivant. Si on peut... éventuellement, la Chine ne pourra pas être uniquement un pays d'ingénieurs. Les nations...
Non, mais c'est l'autre affaire.
Un peuple sans âme n'est qu'une immense foule, disait Victor Hugo. Alors, ils vont vouloir devenir des artistes, des créateurs. C'est comme ça que la démocratie naît. Elle n'est pas uniquement par un beau discours. Elle naît parce que ces gens-là, soudainement plus instruits que leurs ancêtres, beaucoup plus instruits même, beaucoup plus prospères, vont commencer à s'intéresser à diverses autres choses qui mènent automatiquement vers la démocratie.
Oui, puis c'est parce que
l'art ne peut pas s'épanouir.
Taux de croissance, Luc, qui était à 10-12, il n'est plus à 10-12.
Mais il est à 7, par exemple.
Oui, mais il descend. Ouais, il ne monte pas, il descend.
Oui, mais 7, Bernard,
ouais, mais c'est encore haut, mais c'est moins que 12.
On ne peut pas rêver à ça, même ici. 7,
je ne te parle pas de nous autres, je te parle d'eux autres.
Oui, mais tout est relatif.
Oui, mais tout est relatif. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la raison pour laquelle les Chinois tolèrent le Parti communiste chinois, c'est qu'il les a enrichis. Le jour où le Parti communiste chinois ne les enrichira plus, je pense qu'ils vont être dans le trouble.
Et je le souhaite vivement.
Tranquillement, pas vite, on s'en va dans un taux de croissance qui va ressembler de plus en plus aux 3-4%.
Mais moi, je pense, Bernard, que tu as raison.
D'une économie
éventuellement, mais pas demain matin. Mais ce qu'on voit à l'heure actuelle, on est en 2019, là, on voit également une période charnière de notre histoire. Qu'est-ce que va devenir la Chine quand elle sera vraiment la superpuissance? Elle est à peu près là. Qu'est-ce qui va advenir de l'Eurasie? De tous ces traités qui ont été signés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui faisaient de ce qu'ils appelaient la zone atlantique, les États-Unis étaient soudés à l'Europe, puis l'Asie avait son coin. Tandis que là, ce grand continent qu'on appelle l'Eurasie est en train de se réunifier. Est-ce qu'ils vont devenir impérialistes, hégémoniques?
Projeter leur puissance à l'extérieur de leurs frontières.
Hégémoniques, effectivement.
Tu regardes l'histoire des grandes puissances, c'est toujours ça qui est arrivé.
C'est comme ça qu'ils se cassent la gueule aussi.
Oui, mais des fois, ça prend du temps. On va s'arrêter parlant de grande puissance qui en a déjà été une, la Grande-Bretagne, qui reçoit aujourd'hui la visite d'une autre grande puissance qui, elle, est en déclin, la puissance américaine, dont le chef d'État. Hein? Non, mais c'est intéressant, alors.
Oui, absolument.
Grande-Bretagne, ça a été la grande puissance, lui a succédé les États-Unis, et on vient parler de la Chine qui risque, dans les prochaines décennies,
dans les prochaines années. En 2025, il y aura la plus grande économie au monde.
J'essaie d'être conservateur un peu, ça dépend des critères qu'on utilise. Dans un instant, Donald Trump, donc, qui visite les Brits.
Drainville PM. La voix est libre.
Bernard, il a vécu à Londres, puis il connaît les mots par cœur. Hein, ouais, Bernard.
Sérieux, quand tu fais un party avec les Brits, là, eux autres, là, ils chantent le God Save the... Ben, pas toutes, là, mais il y en a, là. Ils se mettent debout. Des fois, ils juste t'écœurent un peu, là. Ils se mettent debout, puis ils se mettent à chanter le God Save the Queen. Puis je vais te dire, en affaire, t'as intérêt à te lever. non, je te le dis. Non, mais il aime le règne, qu'est-ce que tu veux? Sais-tu quoi? Trump a l'air à l'aimer aussi. Non, il était honoré aujourd'hui. Écoute, il a été reçu comme
Là, c'est après le Japon, c'est la Grande-Bretagne. Ces deux pays-là en sont un bel exemple. Macron avait pavé la voie au début. Mm. C'est comme, il aime les honneurs. Ah, il aime ce qui flash.
Oui.
Il aime le brillant.
La flatterie.
Le clinquant.
Hein, la flatterie.
Oui, oui, puis le bling-bling, puis tout ce qui vient avec. Puis tout ça fait les Britanniques ont dit, sais-tu, on va t'en donner pour ton cash.
Ah oui.
Alors,
ils sont bons là-dedans.
Ils se sont arrangés pour que Marine One, qui est l'hélicoptère officiel du président des États-Unis, se pose devant Buckingham Palace avec la garde en rouge et tout.
Ah, des images magnifiques.
Des images absolument magnifiques. Mais pas aussi élaboré que lorsqu'Obama y avait été et qu'il avait fait le tour en carrosse dorée pendant le défilé militaire, là. Mais on dit que cette fois-ci, ils l'ont pas fait pour des raisons de sécurité, enfin, je ne sais trop quoi. Mais avant, là, au moment, là, l'avion se pose, là, Air Force One est en train de toucher au sol. Notre ami Donald Trump a son téléphone dans ses mains, puis il est en train de se lancer dans une attaque contre le maire de Londres.
Oui.
Il dit, c'est le pire loser que j'ai jamais vu de ma vie.
T'arrives à Londres.
Le pire loser que j'ai jamais vu de ma vie. Et peu de temps avant que l'avion se pose, il en avait envoyé un autre pour dire que Meghan Markle, la nouvelle membre de la famille royale, après avoir épousé Harry, qui vient d'avoir un bébé, avait été extrêmement mesquine à son égard à l'époque où elle connaissait même pas Harry.
Nasty woman!
Il leur en a donné pour leur cash. Puis après ça, ben, c'était un moment charnière de l'histoire politique anglaise à cause du fameux Brexit. Est-ce qu'on sort, oui ou non, de l'Union européenne? Finalement, il n'y a presque pas de gouvernement à l'heure actuelle. Theresa May est là comme pour prendre soin des affaires courantes. Alors là, il arrive là, puis c'est comme une période politique très, très délicate. Alors, avec sa délicatesse habituelle, il saute sur l'occasion, puis il dit Boris Johnson, qui a été ministre des Affaires étrangères de Theresa May avant d'y sacrer un coup de poignard parce qu'il n'aimait pas son approche sur le Brexit.
Ouais.
Il dit, oui, ce serait un bon premier ministre. Après ça, il y en a un qui il parle de Nigel Farage. Ça, Nigel Farage, là, c'est le démagogue le plus menteur que l'Angleterre a. Ah non, c'est vrai. Il a dit n'importe quoi, ce gars-là.
Je te taquine.
Il a dit de Nigel Farage, « A very good guy! » OK? Alors, c'est, les choses vont bien, n'est-ce pas? Alors,
Avant d'arriver.
Oui, puis là, il va voir Theresa May demain, puis il va lui répéter en personne ce qu'il a dit souvent publiquement et sous forme de tweet et tout ce que tu veux.
Sors de l'Union sans entente.
Oui, mais ça, c'est fait. Il va lui dire que t'es bien pourri. Comment ça se fait que t'es pas sorti de l'entente? Parce qu'il est assez fou pour lui dire.
Ben non.
Ben oui, je te le dis.
Pas dans sa face.
Oui. Puis en plus, demain, mais là, ça se peut qu'il y ait une grosse manif, là.
Ben, il y a déjà des manifestants. Il y a déjà des
petit, mais ça a de l'air que c'est demain.
Ah, demain, ça va être gros, là.
Ce soir, c'est le dîner à Buckingham Palace. J'ai eu l'honneur de participer à deux de ces événements.
Oui, je sais, tu nous as compté ça.
C'est assez magnifique.
Oui, oui.
Mais il y a des membres de la haute société britannique qui ont décidé de pas y aller. Le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, a dit, moi, c'est tout, on va laisser faire.
Il veut pas avoir de photos, lui.
Oui, puis le maire de Londres, vous dites-tu, il a dit, on va laisser faire. Puis il y en a d'autres, ça a l'air qui, sans trop s'en vanter, disent, ben, c'est-tu... Je pense qu'on va laisser faire.
Je suis malade.
Ouais, j'ai mal à la tête.
J'ai une petite fille.
J'ai mal à la tête. Alors, quelle niaiserie va-t-il faire? Moi, je m'attends à tout. D'abord, il a raconté à son arrivée que son problème qu'il avait, c'est qu'il n'était pas capable de voir d'autre chose que CNN parce qu'il reste dans la résidence de l'ambassadeur. C'est une autre affaire avec Obama. Obama avait habité Buckingham Palace. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas laissé habiter là. Peut-être la reine
s'est dit... Tu laisserais-tu, toi, Luz, dans ta maison?
Non.
Aussi bien te...
Il va voler tes tableaux.
Mais pas aussi bien tu te réveilles, toi, puis il est au pied du lit, toi.
Ben oui!
Hein? The Donald!
Your Majesty, this is the Donald. Alors, il ne reste pas à Buckingham Palace, il reste dans la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis à Londres. Et là, il s'est plaint que là où il était, il avait seulement accès à CNN, puis qu'il en était devenu malade, il avait eu la nausée. Oui. C'était plein de fake news, puis je sais plus trop quoi, puis c'était affreux, puis tout ça. Alors, mesdames et messieurs, l'Occident, dont nous faisons partie fièrement, nous représente. Et nous, on est bien représentés. Quand on voyage, là, nous autres, notre grand chef, le chef du monde libre, comme on disait autrefois, c'est de Donald.
Il y en a qui te trouvent sévère, là.
Ah ouais.
J'ai des auditeurs qui m'écrivent, là, puis disent, non, là, Luc, là, tu vas trop loin.
Dans le côté
t'es trop sévère. T'es trop sévère avec le Donald.
Mais je sais pas comment on peut ne pas être sévère. Tu dis, là, la job peut-être la plus compliquée de la Terre. Je vais la donner à un gars qui a aucune culture, Le dernier livre que tu as vu, c'est un bottin téléphonique, puis ça n'existe même plus. C'est un gars qui n'a aucune idée de la gouvernance d'un État. C'est un menteur compulsif, il ne fait que mentir. Quand il s'ouvre la trappe, c'est des mensonges. Facile de dire quand est-ce qu'il ment, les lèvres bougent. T'sais. Alors, ce gars-là est arrivé là, puis il est en train de foutre le bordel partout.
Oui, mais il y a une raison pour laquelle il est là. Là, hein? N'oubliez
ouais.
pas.
Oui, OK, d'accord.
Non, mais la colère là, qui l'a mené là, tu sais qu'elle est encore là. Il y a encore 40 à 45 des Américains qui l'appuient. Là. Non, non, mais c'est un fait. Là. Tu le sais comme moi que c'est un
c'est
fait.
C'est autodestructeur, comme ça n'a pas de bon sens. Ce que tu dis est vrai, mais c'est autodestructeur. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire éliminer du jeu mondial. Puis le jeu mondial, en bout de ligne, ça veut dire prospérité, ça veut dire commerce. La Chine est en train de bâtir le projet d'infrastructure le plus colossal de l'histoire de l'humanité pour relier tout et raccoin de l'Eurasie par des trains à grande vitesse puis des aéroports et tout ce que tu veux. Ils sont en train de créer de facto un lien direct avec l'Europe qui, au fond, n'était que... C'était le même continent. Si tu regardes une carte Eurasie, c'est le même continent.
C'est la même masse territoriale.
C'est la même masse territoriale. Ouais. Ils sont en train, les Chinois, de prendre le contrôle là-dessus. Ça, c'était la prospérité américaine. C'était son rôle de leader au sein d'une économie capitaliste démocratique. C'était ça, son rôle. Mais là, il est en train de se le faire arracher. D'abord, parce qu'il a envoyé promener les Européens. Les Européens, mais eux autres aussi, ils veulent survivre. Ils sont tournés, puis ils ont dit, « Ouais, j'aime pas trop le style de régime qu'ils ont en Chine, mais qu'est-ce que tu veux, quel choix que j'ai? OK, si je veux demeurer prospère, si je veux rester un joueur dans le jeu, il faut que je me fasse d'autres alliances. » La Chine, par ses projets d'investissement, puis en plus, là, ce qu'elle fait avec ses investissements, ils appellent ça la nouvelle route de la soie, là. Les infrastructures extraordinaires qu'ils construisent sur ce continent eurasien, si on peut l'appeler ainsi, ils l'accompagnent de construction de bases militaires. Parce qu'ils disent, à mesure que je mets des installations comme ça, il va falloir que
j'ai moyen de les protéger.
Ben oui. Alors ça veut dire, tu vois, l'hégémonie dont on parlait là, au plan militaire, en tout cas, est en train de... tranquillement, pas vite, comme si de rien n'était.
Tu parlais des porte-avions. Ils sont en train d'investir beaucoup dans les sous-marins également, les Chinois.
Mais,
là, hein?
Mais surtout, ils fabriquent les leurs. C'est la technologie certifiée chinoise, des avions de combat, des porte-avions, des sous-marins, tout.
Voilà.
Alors, je veux dire, c'est ça. Comment être trop dur avec Trump, je ne sais pas. Vraiment, moi, tout ce que je peux dire, c'est quand est-ce qu'ils vont nous débarrasser de cet être complètement farfelu?
Bien, c'est pas fait encore, mon ami, parce que, je vais te dire, la prochaine présidentielle va être intéressante à suivre.
Puis ça s'annonce pas bien, ça s'annonce que Trump va être réélu.
Les démocrates, là, actuellement, là, c'est Biden là, qui est en avance de beaucoup.
Biden,
là,
c'est pas vendable.
Biden, il est quoi, 79, 80? Là?
Non, 76.
Il va avoir passé 80 si jamais il est élu président.
Quelque chose de même.
Oui, c'est ça. OK, Luc, ben écoute, ça n'arrête pas de bien aller.
La vie est belle, Bernard.
Ça n'arrête pas de bien aller, mon Luc.
Les Raptors ont failli gagner hier. Là. Ah, ça a été serré.
Ils ont perdu. Troisième quart. Un ballon s'est dégonflé. Alors là, c'est 1-1.
Et monsieur.
Ils s'en vont jouer à San Francisco.
Et voilà.
OK, à demain.
Bye.
Dans un instant, on va parler à cette jeune esthéticienne. On l'avait déjà reçue en studio. Elle allait représenter le Québec aux Jeux olympiques des métiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Eh bien, elle a gagné la finale du Canada. Et là, elle s'en va représenter le Canada aux olympiques des métiers, des formations professionnelles. Elle s'appelle Marie-Soleil Perrault. Dans un instant.